Les prédicateurs sont plus grands que... comme Gaston Ramseyer. Non, ça va, je te remercie, tu vois. Ça va. Merci, c'est gentil. Hein. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai perdu ma feuille. Non, c'est pas la mienne. Voilà. C'est un plaisir de se retrouver ensemble, n'est-ce pas, autour de la parole de Dieu, autour de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous honore de sa présence. Ah, ok, merci. Alors, je me joins aux autres prédicateurs qui ont commencé à vous parler sur ce thème-là, qui nous accompagne tout le long de ce trimestre, le royaume de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler plus spécifiquement sur la personne du roi, parce que qui dit royaume dit un roi, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, avec les psaumes, Loïc a commencé avec le psaume 84, et je voudrais qu'on lise un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 45, ensemble. Mais peut-être avant de le lire, je voudrais prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est de l'eau rafraîchissante pour nos cœurs. Et Seigneur, nous voulons venir y boire ce matin et puis y trouver de la force et de l'enthousiasme pour notre marche aujourd'hui. Saint-Esprit, viens nous guider afin que nous approchions de ta parole sainte. Déverse encore en nous, Seigneur, l'amour pour notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ au travers de ta parole. Nous voulons avoir un cœur ouvert, une intelligence ouverte, Seigneur, pour que tu viennes déposer, Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors, je vous invite à tourner vos Bibles au psaume 45 ou à lire derrière moi le psaume. Au chef de cœur. Ça commence comme ça, hein, c'est pas juste le titre, le psaume, d'accord? C'est au chef de cœur. Sur la mélodie, les lys, des descendants de Corée ou des fils de Corée, cantique, chant d'amour. De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils des hommes. Ta grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, mets ton épée au côté, signe de ta grandeur et de ta majesté. Oui, de ta majesté. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta main droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles frapperont au cœur les ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. Le myrrhe, l'aloès et la cannelle parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de roi figurent parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'un or venu d'Ophir. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, prosterne-toi devant lui. Avec des offrandes, les habitants de Tyr et les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. La fille du roi est toute resplendissante à l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, revêtue de ses habits brodés. À la suite, des jeunes filles, ses compagnes, sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la terre, la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom de génération en génération. C'est pourquoi les peuples te loueront pour toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Alors, je vais essayer de me débrouiller avec cette zapette, sinon, en bas, ok, voilà. Non, ça ne va pas. Eh bien, voilà, très bien. Merci beaucoup, derrière, ou devant plutôt. Voilà, ce psaume, c'est un psaume qui est venu du cœur et de la tête d'un homme, le psalmiste. C'est donc aussi une nourriture pour le cœur et pour la tête. Et c'est comme ça qu'il se présente. Alors pour le cœur, parce que c'est un chant d'amour. Je suis sûr que vous aimez les chants d'amour. Est-ce que vous pensez que les dames sont plus sensibles aux chants d'amour que les hommes ? Rien n'est moins sûr. Nous, les hommes, nous savons cacher nos sentiments. Hein, nous les contrôlons davantage. Mais au fond, nous sommes aussi sensibles que vous, mes sœurs. Hein. Ce chant d'amour, d'ailleurs, est composé par un des fils de Corée. Et jusqu'à preuve du contraire, les fils de Corée, ce sont des hommes. J'ai eu la grâce, dans mon ministère, de présider à plusieurs cérémonies de mariage. Et c'est toujours une grâce pour moi, c'est toujours émouvant de voir les échanges des fiancés qui s'engagent pour la vie. J'aime entendre les promesses qu'ils se font. Ce sont vraiment des moments uniques, n'est-ce pas, qui sont porteurs d'avenir et d'espérance. Vous aimez les mariages ? Ah. Mais ce psaume est aussi une méditation. Le mot, c'est marqué ici, cantique, mais le mot hébreu, maskil, ça veut dire méditation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que, que le psalmiste a réfléchi. Hein ? C'est une pensée qui est pesée, c'est une pensée qui est réfléchie. Et comme nous sommes dans un cadre biblique, c'est-à-dire c'est une pensée qui est alimentée par la foi. Et j'aime ces psaumes où il y a de l'émotion, où il y a de l'intelligence qui va ensemble. Parce que l'être humain n'est pas fait que d'émotion, il n'est pas fait que d'intelligence. C'est un mélange des dieux, de deux. La parole de Dieu parle autant à nos émotions qu'à notre intelligence. Hein ? Alors dans ce psaume, il y a trois personnages. On va s'en contenter de deux ce matin. Il y a l'auteur du psaume, il y a le roi et la princesse étrangère qui va se marier avec le roi. Alors parlant du premier personnage, le psalmiste qui écrit ce psaume inspiré par l'Esprit, on parle de lui au début, mais il va vite s'effacer devant les deux autres. Mais c'est important que nous parlions de lui, parce qu'il décrit son état intérieur. Il dit ce qu'il ressent. Il y a quelque chose qui fait vibrer son cœur. Il est en état d'excitation. Hein. Il est enthousiaste. Il est bouillonnant de belles paroles. Le mot dont il se sert, ça évoque l'image d'une source qui jaillit sous l'effet de la pression. Il y a comme un trop-plein en lui. Et ce trop-plein vient de sa vision du roi. Son cœur est tellement plein qu'il déborde de paroles, que ça ne peut pas rester simplement à l'intérieur de lui. Ça bouillonne et ça sort. Jésus parle que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il n'est pas simplement en état de bouillonnement émotionnel, il est aussi dans un état de stimulation intellectuelle. Les paroles qui jaillissent en lui, il les voudrait aussi parfaites que possible. Que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Il n'y avait pas de stylo, il n'y avait pas de bic à l'époque. Hein, on écrivait avec des roseaux trempés dans de l'encre. Hein. Alors que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain, non pas qu'il serait perfectionniste, mais il voudrait que ses paroles soient aussi parfaites que possible pour rendre honneur à celui à qui il dédie le psaume. Il dit, je dis, mon œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Alors, même s'il est dans un état de bouillonnement intérieur, eh bien, il prend le temps pour vivre ces différents temps. Bouillonnement, jaillissement, l'écriture, une mise en ordre de l'écriture, et puis après, une élocution. cœur et intelligence durant ce processus de l'Esprit Saint. Finalement, l'Esprit Saint a mis son sceau sur la parole d'un homme. Et ce psaume est devenu parole de Dieu. Alors, juste un petit clin d'œil. Ne pas confondre entre spontanéité et inspiration. La spontanéité n'est pas toujours un gage de spiritualité. Hein ? Alors, nous pouvons trouver ici, dans cet état d'esprit du psalmiste, une application à notre propre vie, à notre propre œuvre. Je ne suis pas un musicien, j'aurais aimé, je gratte trois accords sur ma guitare, mais je n'ai pas de talent artistique. J'aurais aimé être Olivier et Stéphane et les autres et Marie, mais je suis moi. Le Seigneur ne m'a pas donné un don particulier pour la musique. Je suis sûr que tous les artistes chrétiens ont déjà vécu, peut-être à moindre échelle, ce que le psalmiste a vécu dans ce état de bouillonnement intérieur qui le fait pousser à composer une œuvre pour le Seigneur. Mais puisque je ne suis pas un musicien, eh bien je n'ai pas recherché à être un musicien. Mais qui que nous soyons, nous avons à dédier notre œuvre et notre vie au roi. Qui que nous soyons, nous sommes appelés à offrir ce que nous sommes au roi. Ce que je suis est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi, et je le dis. Et il y a des multiples vocations, il y a des multiples dons, il y a de nombreux appels dans le plan de Dieu. Certaines vocations sont dirigées vers l'Église, spécifiquement. Prophète, pasteur, docteur, ancien, diacre, chantre, responsable de réunion maison, responsable de ménage ou je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un titre pour servir le Seigneur et pour servir le corps de Christ. Mais il y a aussi d'autres vocations qui sont dirigées vers le monde, qui sont tout aussi précieuses que celles qui sont dirigées vers le corps de Christ. N'importe quelle profession, n'importe quelle action peut devenir une vocation et un appel. Quoi qu'il en soit, Dieu veut être glorifié dans tout ce que nous faisons. L'apôtre Paul va dire ceci, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Pas simplement le dimanche matin, lundi, mardi, mercredi, etc. Tous les jours. Faites tout pour la gloire de Dieu. Jean-Sébastien Bach était un auteur remarquable, compositeur remarquable. Et chaque fois qu'il composait une œuvre, il signait. Mais il ne signait pas J.S.B. Jean-Sébastien Bach. Il signait S.D.G. Soli Gloria, Soli Deo Gloria. À Dieu seul soit la gloire. Alors nous devons chercher à exceller en toutes choses parce que c'est pour le Seigneur. Parce que c'est pour lui. Mon œuvre est pour lui. Mais mes amis, n'attendons pas d'être parfaits pour servir Jésus. Mais travaillons à notre perfection. Jésus et l'apôtre Paul va dire que l'Évangile croît, que nous avons à chercher à croître, que nous avons à chercher à progresser, à nous perfectionner. Alors dans ce désir de perfection, il faut quand même ne pas oublier deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est que c'est le Saint-Esprit qui fait cela en nous. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de notre perfectionnement. Ce n'est vraiment pas par nos propres forces. Alors prions pour que nous puissions grandir. Demandons au Seigneur, l'Esprit Saint, de nous faire grandir en lui. Que le Seigneur continue de nous faire progresser en lui. Alors, progresser, c'est un pas après l'autre. Hein. On peut regarder le terme du progrès, être semblable à Jésus-Christ, c'est ça, hein, le terme du progrès. Mais chaque jour, j'avance d'un pas vers lui. Et puis, deuxième chose qu'il ne faudrait pas oublier dans ce chemin de progrès, dans ce chemin de consécration à Dieu, Eh bien, c'est qu'il y a une œuvre de la grâce en nous. Il y a une œuvre de la grâce, nous serons toujours dépendants de la grâce. Pourquoi ? Parce que nos œuvres ici-bas, mes œuvres ici-bas, ne seront jamais aussi parfaites que je le souhaiterais. Et parce que parfois je connaîtrai l'échec, et parfois je connaîtrai la chute, et donc j'aurai besoin de la grâce. Toujours. Pierre était comme ceci. Il voulait progresser, il voulait aller en avant avec le Christ. Il est tombé. Il a eu besoin de la grâce. Revenons à notre texte. Le psalmiste va s'effacer devant le second personnage du psaume. Et il s'agit de qui ? Il s'agit du roi. C'est le personnage central du psaume. Et c'est ce personnage qui est la source du bouillonnement intérieur du psalmiste. Et c'est pour lui que le psalmiste écrit ce psaume, cette méditation, ce chant d'amour. Il l'écrit, c'est parfaitement clair, à l'occasion du mariage du roi avec une princesse étrangère. Alors qui est ce roi ? Est-ce Salomon, lui qui a eu de nombreuses épouses, ou encore un autre roi ? Alors là, je laisse, si vous avez envie de savoir, allez puiser dans vos commentaires. Voilà, même les commentateurs ne sont pas très à l'aise avec qui est décrit dans ce psaume. Mais je crois que le psalmiste a été inspiré, parce que ce n'était pas simplement un psaume, ce n'était pas simplement un roi qu'il avait devant les yeux, il parlait pour le roi qui allait venir plus loin, qui allait venir plus tard. L'épître aux Hébreux va reprendre ce psaume. Ah, je pense que peut-être il y a une diapo supplémentaire. Je ne me rappelle plus. Je vous fais confiance derrière la sono. Voilà. Alors, il commence à décrire ce roi. Pas simplement ce roi qu'il a devant les yeux, mais ce roi qui va venir, prophétisant la venue du Christ en tant que roi. Et il commence par décrire la beauté du roi. Notre roi est beau, notre Jésus est beau. Voilà. Alors, je suis sûr que vous vous dites, tiens, mais est-ce que ça contredit pas le Ésaïe 53, où il nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat ? Ésaïe prophétisait l'apparence de Jésus lors de la Passion. Jésus a été giflé, Jésus a été craché, couronné d'épines, flagellé. Intérieurement, ce n'était pas mieux. Sort du jardin de Gethsémané, jardin d'angoisse, acceptant de boire la coupe de nos péchés, trahi par un des siens, lâché par ceux dont il a dit « Je vous appelle ami ». Frères et sœurs, croyez-vous que l'on sort indemne de ce genre d'épreuve et de calvaire ? Croyez-vous que Jésus est resté coiffé tout le long de ses heures ? Croyez-vous que Jésus est sorti d'Hollywood ? Il n'avait ni beauté ni éclat et on se détournait de lui. Alors que veut dire le psalmiste lorsqu'il dit que le roi est le plus beau de tous les fils de l'homme ? Qu'il est le numéro 1 du top 10 des personnes les plus belles. Sans rire, sur Internet, on peut trouver le top 10 des gens les plus beaux du monde. C'est truqué parce qu'ils m'ont oublié. Voilà, c'était juste pour vous faire rire quand même. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait la beauté du roi ? C'est la grâce qui est répandue sur ses lèvres. La grâce est répandue sur tes lèvres, Seigneur. Le psalmiste a lié la beauté de notre roi à la parole de grâce qui sortait de sa bouche. On a des échos dans l'Évangile. Luc chapitre 4, verset 16. Lorsque Jésus prend la parole la première fois à Nazareth, lorsqu'il cite Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Lorsqu'à la fin de son discours, les gens qui l'ont entendu disent, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Ils étaient étonnés des paroles de grâce. Qu'est-ce que j'aime Jésus quand il parle ? Vous savez, il y a certaines Bibles où il y a les paroles de Jésus en rouge. Alors, on se focalise. Toute la parole est la parole de Dieu. Hein, mais là, lorsqu'elles sont en rouge, voilà. La femme adultère, il n'y a personne qui te condamne. Moi, je ne te condamne pas. Que veux-tu que je te fasse ? Je dois aujourd'hui demeurer dans ta maison. Etc., etc. Des paroles de grâce. Dans nos sociétés, l'apparence physique et la beauté ont beaucoup de valeur. Hein. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas avoir par ces critères de jugement. Mettons l'apparence à sa juste place. Il y a un seul et unique critère de la beauté. Il y a des gens qui sont beaux d'apparence, mais qui sont toxiques. Satan se déguise parfois en ange de lumière. Il y a des personnes à l'apparence quelconque, mais dans leur cœur est d'une beauté incroyable. Proverbe 19, verset 22, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. C'est sa bonté. Alors, quoi qu'il en soit, la beauté physique doit être vécue comme un don. Si vous pensez être beau et belle ou belle, rendez gloire à Dieu pour ce don. Vous avez strictement rien fait pour l'être. Donc méfiez-vous du miroir, demandez au Seigneur de vous donner un cœur avec du bon sens, c'est-à-dire un cœur reconnaissant. Si vous pensez que vous n'êtes ni beau ni belle, ne vous morfondez pas non plus. Rendez gloire à Dieu pour qui vous êtes. Soyez délivrés du regard d'autrui. Qui est-ce qui nous montre ce que nous sommes réellement, si ce n'est la parole de Dieu et le regard de Jésus ? Oui, le canon de la beauté pour le chrétien, ce n'est pas la star à la mode de la TV ou du cinéma qui sont en train de monter les marches du tapis rouge à Cannes, mais c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Et notre idéal, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Notre vision, ce que le travail du Saint-Esprit en nous, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Alors, mes amis, vous êtes beaux et belles à cause de Jésus-Christ. Parce que Dieu vous a voulu tel que vous êtes. Vous êtes sa création. C'est comme ça qu'il a voulu que vous soyez. Alors, exhortation pour le peuple de Dieu, pour les disciples de Jésus-Christ, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Ou encore, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que nos paroles soient accompagnées de grâce. Après la beauté du roi, le psalmiste continue en décrivant la force du roi. Autre diapo. Merci. J'ai même plus besoin de ça, la parole, ça marche tout seul. Le psalmiste présente le roi sous les traits d'un guerrier, d'un homme jeune, vaillant, vigoureux. Alors en hébreu, c'est le gibor, celui qui est victorieux, le Dieu puissant. Vous savez où est-ce qu'on le retrouve, ce gibor ? Dans Ésaïe 9, verset 5. Et vous savez qu'est-ce que c'est, Ésaïe, chapitre 9, verset 5 ? Non ? Si, vous le savez, mais vous ne savez pas que c'est la référence. C'est la prophétie de l'Emmanuel. Ah, je vais le lire quand même, parce que... Ésaïe 9. Un enfant nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, elle Gibor, Père éternel, prince de la paix. Et voici son projet au roi et dans sa force. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. El Gibor, dans le petit enfant, Emmanuel, Dieu avec nous. Représenté dans ce psaume 45 comme un guerrier qui doit se ceindre de son épée, qui monte sur son char revêtu d'habits de guerrier avec son arc dans le dos, s'avançant contre ses ennemis. Alors c'est vrai que l'image semble très peu évangélique quand on lit cela. Nous n'avons pas l'habitude de penser notre Seigneur de cette façon. Hein. On se dit, le Seigneur comme un vaillant guerrier, c'est plutôt l'Ancien Testament, ça. Et les gens de l'Ancien Testament, il leur manquait quelque chose. Non, Jésus, c'est un agneau. Il est tout doux, il est tout mignon. C'est un doudou. Non. Jésus, il est aussi un lion qui rugit. Il ne fait pas que ronronner notre Seigneur. Il rugit, c'est le lion. Cette image du guerrier se retrouve aussi dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 11, que je vais vous lire. « Je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient des flammes de feu, sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, revêtu d'un vêtement teint de sang, parce qu'il a donné sa vie. Hein. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin blanc, de fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, le psaume 2. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Amen. Amen. Oh là là. Et nous avons encore une autre image dans ce même livre où celui qui monte le cheval porte un arc. Apocalypse 6, 5. Alors le psaume nous dit qu'il combat pour défendre la justice, la vérité et la douceur, notre mot humilité. Et effectivement, lorsque Jésus est venu, se présentant comme un faible homme, mais vaillant guerrier à l'intérieur de lui, combattant et pourfendant ses ennemis, mettant plus bas que terre le diable. Ésaïe 49 va dire ceci encore en parlant du serviteur de l'Éternel. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant, m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Quelle réponse est donnée à ces contradicteurs, touchant au plein cœur ceux qui venaient vers lui. Dans l'évangile encore, il nous est dit que la foule était étonnée, stupéfaite, émerveillée, parce que Jésus parlait avec autorité, qu'il allait au fond des choses. Ce n'était pas une parole froide, c'était une parole qui transperçait les âmes et qui transperce toujours les âmes. La parole de Dieu est une arme d'ailleurs, il nous est dit. Et nous, et moi, nous ensemble qui étions ennemis de Dieu, qui avions mérité sa colère, il nous a réconciliés avec lui, il nous a décoché une flèche dans nos cœurs, il a touché en pleine poitrine, il nous a transpercés par sa flèche aiguë de sa parole. Le territoire où le vaillant guerrier combat, c'est notre cœur. La diabo, voilà. Le territoire où le vaillant guerrier combat, c'est notre cœur. Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, nous nous croyons souvent dociles. Mais combien d'années, combien de combats a-t-il fallu pour que le Seigneur installe en nous la vérité, la douceur et la justice? Et ce n'est pas fini, parce que notre cœur est toujours un terrain de bataille entre vérité et mensonge, entre douceur de l'humilité et rudesse de l'orgueil, entre justice et égocentrisme. Oui, le Seigneur parle avec autorité et sa parole défait les idées reçues, les illusions que l'on peut se créer, les alibis que l'on peut se donner, détruit nos idoles qui nous donnent un faux sentiment de sécurité. Lorsque Jésus nous parle, il nous dit « en vérité, je te le dis ». Alors je vous rappelle cette double image du trône de Dieu où l'agneau se confond avec le lion de Juda. Et une de mes questions, une interpellation que je fais au Seigneur, « Seigneur, rugis un peu plus au fond de mon cœur. Combat le combat de mon cœur et gagne. Sois vainqueur sur moi. Détruis mon orgueil. Détruis le mensonge que je peux me former. Détruis mon égocentrisme. Viens établir ton trône, Seigneur, dans mon cœur. » Et il le fait. Il le fait. Et il le fait en chacun d'entre nous. Et vous savez quoi? Je ne vais pas parler de la troisième personne de ce psaume parce que c'est l'épouse, c'est nous. L'épouse est belle, c'est marqué, c'est le seul caractère qu'elle a en commun avec le roi. Elle est belle parce que c'est le roi qui lui donne sa beauté. Et lorsque nous parviendrons devant le Seigneur, c'est lui qui nous perfectionnera jusqu'à la fin. C'est lui qui nous rendra beaux ensemble, irréprochables ensemble. Ça, c'est notre avenir. Ça, c'est notre devenir. Ensemble, chacun individuellement, que vous êtes beaux, mes frères et sœurs. Alors, Seigneur, sois vainqueur dans ma vie, sois vainqueur dans nos vies, sois vainqueur dans l'Église, Seigneur. Et il l'a eu. Sa victoire est venue à la croix, où il a abattu tous nos ennemis. J'ai envie de m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là et simplement de prier. Le psalmiste, il a, en écrivant, en acceptant que ce bouillonnement soit un peu contrôlé par son intelligence, eh bien, il a écrit quelque chose qui l'a dépassé. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Je veux revenir au psaume. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a désigné par onction. Ces versets vont être repris de plusieurs manières dans le Nouveau Testament pour désigner la divinité de Jésus-Christ. Il a écrit quelque chose qui a été inspiré par le Saint-Esprit, qui l'a dépassé au niveau de son intelligence, mais qui était nécessaire pour que les auteurs du Nouveau Testament puissent appuyer sur la parole de Dieu qui était Jésus-Christ. C'est quand même incroyable, je trouve, la parole de Dieu. Nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas un homme qui s'est fait Dieu. Nous adorons Dieu qui est venu s'incarner en un homme, Jésus-Christ. Je voudrais conclure en posant la question, et puis vous répondrez pour votre compte. Qui es-tu, Jésus ? Lorsque j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'ai été attiré par la beauté de son œuvre. Malgré sa passion et l'horreur de sa passion, lorsque je parle de passion, ça veut dire la souffrance de Jésus. Et j'ai découvert un Jésus plein de grâce envers moi. De sa croix, il m'a attiré et je l'ai suivi. Il a déversé son amour en moi. Puis, en marchant un peu plus loin sur le chemin, j'ai découvert un Jésus qui voulait me transformer intérieurement. Il continue à le faire encore. Comme Paul, je n'ai pas atteint le but, je marche en avant. Jésus m'aime tel que je suis, et comme quelqu'un l'a dit, mais il m'aime trop pour me laisser tel que je suis. Il est le vaillant guerrier qui bataille dans mon cœur pour installer la vérité, la douceur et la justice. Et en marchant, je découvre un trône de souveraineté, De ce trône, il commande, il règne, il siège, supérieur en dignité à tout ce qui est dans le ciel et sous le ciel. Sous son trône, ses ennemis sont à ses pieds. Et nous, en tant que disciples, nous nous tenons à genoux, attitude d'adoration, de soumission et d'obéissance. Les disciples ne demandent qu'une seule chose. Envoie-nous, envoie-moi, n'importe quel âge, envoie-moi. La croissance chrétienne se produit à la mesure de ma vision du Christ. Jésus est-il petit ? Ma vie chrétienne sera petite. Paul prie pour que nous puissions grandir en connaissance du Christ. Qui es-tu, Jésus ? Comment est-ce que je te vois ? Amen. Je vais laisser la place à Loïc pour la Sainte-Cène.